Audiolib présente Les dieux voyagent toujours incognito de Laurent Gounel, lu par Martin Desgagnés. À Jean-Claude Gounel, 1932-2006. Tu me manques, papa. La vie est un risque. Si tu n'as pas risqué, tu n'as pas vécu. C'est ce qui donne un goût de champagne. Sœur Emmanuelle. Chapitre 1. La nuit douce et tiède m'enveloppait. Elle me prenait dans ses bras, me portait. Je sentais mon corps se dissiper en elle. J'avais déjà le sentiment de flotter dans les airs. Encore un pas. Je n'avais pas peur, du tout. La peur m'était étrangère. Et si son nom me venait à l'esprit, c'était juste parce que j'avais craint son apparition, au point qu'elle avait hanté mes pensées ces derniers jours. Je ne voulais pas qu'elle surgisse et me retienne, qu'elle gâche tout. Un petit pas. J'avais imaginé entendre la clameur de la ville, et j'étais surpris par le calme. Pas le silence, non, le calme. Tous les sons qui me parvenaient étaient doux, lointains, et ils me berçaient tandis que mes yeux se perdaient dans les lueurs de la nuit. Un pas de plus. J'avançais lentement, très lentement, sur la poutrelle d'acier que cet éclairage si particulier avait transformé en or sombre. Cette nuit, la tour Eiffel et moi ne faisions qu'un. Je marchais sur l'or, en respirant très doucement un air tiède et humide, d'une saveur étrange, attirante, enivrante. Sous mes pieds, 123 mètres plus bas, Paris, allongé, se donnait à moi. Ces lumières scintillantes étaient autant de clins d'œil, d'appels. Patiente, se sachant irrésistible, elle attendait que mon sang vienne la féconder. Encore un pas. J'avais mûrement pensé, décidé et même préparé cet acte. Je l'avais choisi, accepté, intégré. Je m'étais calmement résolu à mettre fin à une vie sans but ni sens. Une vie, et cette conviction s'était progressivement et terriblement gravée en moi, qui ne pouvait plus rien m'apporter qui vaille la peine. Un pas. Mon existence était une succession d'échecs qui avaient commencé avant même ma naissance. Mon père, si l'on peut désigner ainsi le vulgaire géniteur qu'il fut, ne m'avait pas jugé digne de le connaître. Il avait quitté ma mère dès qu'elle lui avait annoncé sa grossesse. Était-ce avec l'intention de m'éliminer qu'elle était allée noyer son désespoir dans un bar parisien? Les nombreux verres qu'elle but avec l'homme d'affaires américain qu'elle y rencontra ne lui firent pourtant pas perdre sa lucidité. Il avait 39 ans, elle 26. Elle était angoissée et la décontraction qu'il arborait la rassurait. Il semblait aisé, elle préoccupée par sa survie. C'est sciemment qu'elle s'offrit à lui cette même nuit, avec calcul et espoir. Au petit matin, elle se montra tendre et amoureuse, et je ne saurais jamais si c'est avec sincérité ou simplement par faiblesse qu'il lui répondit que oui, si jamais elle tombait enceinte, il souhaitait qu'elle garde l'enfant et reste à ses côtés. Elle le suivit aux États-Unis et, au pays de l'obésité, personne ne s'étonna que je vienne au monde à 7 mois et demi en pesant déjà près de 3 kilos. On m'affubla d'un prénom local et je devins Alan Greenmore, citoyen américain. Ma mère apprit l'anglais et parvint à s'intégrer tant bien que mal dans sa communauté d'adoption. La suite fut moins glorieuse. Mon nouveau père perdit son emploi 5 ans plus tard, et devant la difficulté d'en retrouver un en pleine crise économique de l'avant Reagan, il se laissa progressivement glisser dans l'alcoolisme. L'engrenage fut rapide. Il devint maussade, taciturne, dépressif. Ma mère était écœurée par son manque d'acharnement et lui reprochait sans cesse son